bonsoir, Michel Murator. Nous nous retrouvons pour un alter regard. Ce soir, je vous propose un alter regard sur la culture. En nous sortons d'une période d'élections, d'élections municipales et communautaires, où on a peu, pour ne pas dire pas du tout, parlé de culture. Même Rachida Dati, qui a fait campagne tout en étant ministre de la Culture, n'a pas abordé ce thème. Pourtant, la culture est une compétence partagée entre les différents niveaux de collectivités, communes, intercommunalités, départements, régions, États. Et 67% des communes considèrent qu'ils sont les premiers financeurs. Macron a épuisé, depuis le début de son mandat, 6 ministres de la Culture. Ça dénote l'importance qu'il donne à ce ministère. La lettre de mission des ministres de la Culture précise « Le ministère de la Culture conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes et encourage la création des œuvres d'art et de l'esprit. » On ne parle plus de démocratie culturelle, d'une culture accessible à tous, outil d'émancipation et outil de cohésion sociale. Mais au fait, quand on parle de culture, de quoi parle-t-on ? Avec mon invité, je vous propose tout d'abord de faire un tour de ce que recouvre le terme culture, en termes d'art, en termes de métier et en termes de statut. Donc Tristan, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Tristan Blumel, je suis poète-performeur, ou administrativement je suis artiste-auteur, qui est donc le statut officiel dont je vais vous parler, et je suis syndiqué au SNAP, le syndicat national des artistes plasticiens, qui regroupe plein d'artistes-auteurs différents. Et comme je suis niçois, je suis aussi rattaché à la CGT Spectacle. Donc là, non, ça devient d'un coup très technique. Donc la CGT Spectacle, qui regroupe plusieurs syndicats de personnes et en lien avec l'art.
On peut détailler un petit peu, là, d'abord les différents, parce que artiste plasticien, pour moi, c'est des sculpteurs, c'est des gens comme ça. Or, tu es poète. Hein.
Voilà.
Donc, il faudrait peut-être expliquer.
Alors, c'est que, bon, en tout cas, c'est un peu un statut et des personnes qui sont un peu invisibilisées, que ce soit les artistes plasticiens ou les artistes auteurs, et que je trouve intéressant déjà de distinguer le rapport à la culture et à l'art. Pour moi, dans l'art, il y a quelque chose de vivant, c'est-à-dire que ça vient toucher à la création vivante en ce moment de gens qui sont encore vivants et qui donc ont ma foi besoin de subvenir à leurs besoins et d'avoir des endroits où faire des choses. Et donc moi, en étant poète, je me suis retrouvé à souvent habiter les mêmes espaces qu'habitent les plasticiens. Donc les plasticiens, ce sont toutes les personnes qui sortent des écoles des beaux-arts, des écoles de scénographie aussi, comme il y a à Monaco, pardon. Et donc, c'est vraiment, là, c'est l'art, donc ça va à la fois être la peinture, la sculpture, et qui vont produire des œuvres d'art pour ensuite être exposées en galerie ou dans les musées, des choses comme ça.
Et la CGT a une organisation qui suit les différents arts ou les différents métiers, enfin comment c'est ?
Il y a plein de différents syndicats. Mmh. Il y a donc la SNAP, le syndicat des artistes plasticiens, mais qui regroupe tout un tas d'artistes auteurs. Parce qu'en fait, c'est le même statut en tant que poète, en tant qu'écrivain, j'ai le même statut administratif que les plasticiens. Et il y a aussi, donc ça c'est la SNAP. On a aussi le syndicat SFA qui là va regrouper les artistes interprètes, les gens du théâtre, du spectacle. On a aussi la SIMPTAC qui là va regrouper les techniciens du spectacle. On a aussi, alors bon, peut-être que je me trompe des fois, mais on a aussi la SMAM avec les musiciens, on a aussi maintenant la SNAEM avec les auteurs, compositeurs et écrivains. Donc tout un tas de statuts différents. Pour à chaque fois essayer d'épouser au mieux les spécificités de chaque situation. Mais bien sûr, on est tous regroupés dans cette grande chose qui s'appelle la CGT Spectacle, la Fédération du Spectacle.
D'accord. Et donc là, on retrouve le spectacle, ce qu'on appelle nous facilement le spectacle vivant, c'est-à-dire le théâtre.
Bah, pour dire qu'on est vivant, musiciens. En tout cas.
Oui, voilà, on est vivant. D'accord.
Et là, même à Nice, nous, ce qui est incroyable, c'est qu'afin d'encore plus fédérer sous ça et de rendre compte de l'activité débordante qu'il y a en ce moment, on a créé ce qui s'appelle une SELF. Pour pouvoir agir localement, et donc on a la CGT Spectacle 06 qui fait qu'on peut prendre des décisions par nous-mêmes, d'un coup envoyer des communiqués qu'on peut signer à CGT Spectacle 06 sans que ça implique directement les personnes à Paris, et donc ça nous permet comme ça d'être plus réactifs et d'être là aujourd'hui à Agora FM.
Et en fait, les différents arts, on peut parler de métiers aussi.
Ah oui, bah c'est...
Parce que quand on parle des techniciens, ils relèvent aussi du secteur, j'allais dire, du spectacle vivant.
Voilà.
Mais et là, on est sur des métiers complètement différents.
Ben, en tout cas, c'est pas du tout les mêmes statuts. Et c'est sûr que souvent, les techniciens sont embauchés par les structures, quoique des fois, j'imagine qu'ils peuvent être indépendants.
Mais en tout cas, il y a beaucoup d'intermittents aussi.
Voilà,
quand même.
Voilà. Il y a aussi l'intermittence et ainsi que les interprètes. Et ça, l'intermittence, c'est un statut pour lequel, bon, il y a eu. Donc, je ne saurais plus de quand il date, peut-être dès les années. Je ne vais pas dire de bêtises, mais un certain temps. Et tandis que du côté des artistes, on n'a pas ce statut-là. Parce que souvent, les artistes sont considérés comme des rentiers de leurs œuvres, des rentiers des droits d'auteur. C'est-à-dire que, en tant que poète, je publie des recueils, les gens l'achètent, et ensuite je fais fortune en gagnant un euro par recueil. Voilà. Et ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Souvent, les artistes, finalement, sont amenés à travailler en faisant des ateliers et tout ça. Et donc, c'est un statut complètement indépendant, comme un peu une profession, c'est une profession libérale.
Donc du coup, ceux qui relèvent du statut des intermittents, c'est lesquels alors ?
C'est les interprètes, les techniciens, les musiciens. En effet, c'est un statut qui est plus médiatisé parce qu'il regroupe plus de monde. Et que peut-être, bon, typiquement, la poésie est une pratique qui en elle-même est très invisibilisée et qu'on rencontre rarement un poète vivant.
Mais nous, on a la chance d'avoir un poète vivant. Mais voilà. Donc, moi, à un moment, je disais qu'il y a des tas d'artistes, pour employer un terme générique, qui ne relèvent pas du statut d'intermittent, qui donc, en dehors de vendre, comme tu dis, et gagner un euro par recueil, n'ont pas, du coup, de ressources quand ils ont pas de... Quand ils travaillent pas, on peut dire, enfin, si on peut dire comme ça. Donc, moi, à un moment, je disais, je faisais partie d'un groupe où on disait il faut élargir le statut d'intermittent à l'ensemble des artistes, avec un grand A et de façon très générale. Et tout à l'heure, tu me disais, nous, on a un autre débat.
Voilà, donc c'est cette question, en tout cas, de la continuité des revenus. Et donc, c'est notamment une question qui a été abordée au Sénat en novembre, parce que c'est un projet de loi bipartisan qui est porté aussi par, du coup, des députés écologiques, afin de porter ce projet de loi de continuité de revenus, c'est-à-dire de rattacher ce statut artiste-auteur au régime général de la sécurité sociale, ce qui permettrait donc de cotiser, puis après de pouvoir, selon un peu pareil, de reconstruire quelque chose qui s'apparente à l'intermittence à partir du statut d'artiste-auteur.
Parce qu'il y a deux choses, il y a les droits, sécurité sociale classique, et il y a le chômage. Quand on ne travaille pas, on ne gagne rien. Je pense à un artiste peintre, tu ne vends pas de toile.
Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de continuité de revenus, il n'y a pas de chômage.
Non. Donc on se retrouve au RSA.
Alors c'est très compliqué, c'est très compliqué le statut artiste-auteur. Il est complètement... pour que ça soit Pôle emploi, ne comprennent pas. Il n'y a pas très longtemps, je me suis fait radier, moi, parce qu'on me demandait de fournir des documents qui n'existaient pas, que je n'avais pas. C'est-à-dire que l'artiste-auteur, il rendait compte à l'URSSAF Artiste Limousin, qui est donc l'URSSAF Artiste-auteur, et il rendait compte une fois par an. Et donc, il ne peut pas fournir des documents mensuels qui détaillent son chiffre d'affaires, par exemple. Donc, ce qui, souvent, les administrations, elles sont un peu embêtées parce qu'elles voudraient pouvoir exercer un contrôle un peu plus pointu. Et il y a un autre point problématique, là, que je maîtrise moins, mais c'est la sécurité sociale des artistes-auteurs, anciennement l'AGESA, et qui, en fait, a de grandes déficiences, notamment par rapport aux questions des retraites. C'est qu'il y a régulièrement des artistes, au moment de prendre leur retraite, qui sont amenés à faire procès à la sécurité sociale des artistes-auteurs, parce qu'en fait, ils ont été coupés de leurs cotisations, et ils n'ont plus accès à... ils n'ont pas vraiment pu cotiser, ou alors, ce qu'ils ont cotisé ne va pas au bon endroit. Bon, je ne maîtrise pas très bien, mais en tout cas, c'est une des luttes qui est portée, à la fois donc, sur la continuité de revenus, et à la fois sur... La sécurité sociale des artistes-auteurs, des luttes qui sont portées de manière à l'Assemblée, au Sénat, etc.
Donc on se retrouve dans le schéma où, si j'ai pas, pour globaliser, je suis artiste-peintre, je vends pas, je gagne rien, donc j'ai rien. Et je suis poète, j'ai pas de contrat pour une intervention ou l'autre, du coup je gagne rien, donc je cotise pas. Pour la sécurité sociale, si je gagne rien, il n'y a aucune garantie pour rien, ni sécurité sociale, ni retraite.
On a quand même la carte vitale, ça, mais on n'a pas, j'ai la carte vitale, voilà. Et potentiellement, j'aurai un minimum retraite, mais apparemment, c'est plus ou moins négligeable. Et après, une autre chose, c'est qu'en effet, moi, du coup, mon travail, c'est beaucoup des interventions, des ateliers, que ça soit dans des établissements scolaires, dans des établissements...
Alors, on y viendra avec le AC, parce que c'est une des questions importantes.
Mais ce qui est marrant, c'est que cette activité est considérée comme une activité accessoire. Et c'est-à-dire que je ne peux pas trop... je ne peux pas gagner plus de 10 000 euros avec ça, sinon ensuite je suis... je peux, mais ensuite je serai plus taxé. Et donc, il y a tout un élément comme ça qui fait que la plupart de l'activité d'un artiste est aujourd'hui considérée comme une activité accessoire, parce que normalement l'artiste il doit juste être rentier de ses droits d'auteur, voilà, et attendre de mourir finalement, hein.
Bon. Oui, et quand il n'y a pas de droits d'auteur, et ben il y a le RSA quand même.
Qui est compliqué, parce que on considère, ce qui est pas clair, c'est est-ce que quand on est artiste, on considère que quand on est en train de créer, c'est pas vraiment un travail selon Pôle emploi et etc. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le 06, il y a des grands contrôles par rapport à ça. Donc en fait, c'est pas une situation. Mais s'il y a des artistes auteurs qui nous écoutent, sachez qu'en fait, il y a une autre solution qui s'appelle l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, et qui, dans les textes de loi, donne droit une allocation d'aide, mais qui, bien sûr, c'est complètement nié par Pôle emploi, alors qu'en tant qu'artiste-auteur, on y a droit.
En fait, c'est l'ASS, c'est ce qui vient quand les chômeurs ont épuisé leurs droits. Donc là, vous pouvez faire jouer ce dispositif.
En tant qu'artiste-auteur, on peut faire jouer ce dispositif, mais c'est pas simple, parce que, bien sûr, c'est Pôle emploi va dire que ça n'existe pas, que le statut artiste-auteur n'existe pas. Mais donc, en envoyant un beau dossier avec toutes les infos, là, ils sont obligés d'accepter.
Parce qu'il y a le souci de Pôle emploi, France Travail maintenant, qui demande des justificatifs comme quoi on a recherché du travail. Donc là, c'est impossible.
Et après, c'est sûr, des fois, j'ai plusieurs de mes collègues, moi-même, j'ai eu des travailleurs alimentaires. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, quand il faut intervenir dans les écoles, il faut qu'il y ait des artistes qui soient là pour intervenir dans les écoles. Et souvent, ça, ce n'est pas conciliable avec le fait d'avoir un travail alimentaire à côté. Donc... on aime bien les artistes qui soient disponibles, mais on voudrait qu'ils gagnent leur argent à côté. Donc,
Donc sur les syndicats, on peut dire maintenant, moi j'ai récupéré un communiqué du syndicat national des musiciens, musiciennes, enseignants, interprètes. Donc ceux-là, ils sont rattachés au spectacle vivant.
À la CGT Spectacle, à la Fédération du Spectacle.
La Fédération du Spectacle. Et eux, ils dénoncent donc un peu ce qu'on a dit, le manque de déclaration, mais ils dénoncent surtout des dérives avec du travail au noir, avec des non-déclarations par les structures. On retrouve ça un peu partout ou...
Ben, en tout cas, ça paraît un classique, cette idée-là que les musiciens, on les paye en visibilité, hein, souvent, hein, comme on dit, et oui, qu'on a envie. Quand même, ça paraît incongru que des gens gagnent de l'argent en jouant de la musique, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est... Et oui, je pense... moi, je suis moins confronté à ça en tant que poète, de, à ce dispositif, à ces problèmes-là, mais c'est sûr que c'est un problème. C'est bon, c'est la considération qui est donnée envers les artistes. Voilà, on aime bien. Et si souvent, c'est le maillon, c'est le noyau. Et par exemple, dans les expositions d'art, il y a souvent, alors il y a des petits fours, il y a des grands cocktails pour célébrer tout ça. Mais in fine, souvent l'artiste ne touche pas beaucoup d'argent, quoi, dans des petites, dans des modestes choses comme ça, alors que tout le programme culturel de la structure s'établit par la création. Il y a souvent, du coup, il y a une chose qui a été mise en place, c'est notamment les droits d'exposition. C'est-à-dire, quand un artiste est exposé, il doit être rémunéré, même s'il ne vend pas de pièces, même si... Parce que rien que le fait d'exposer ses pièces devrait...
Mais ça se fait pas, ça.
Ça se fait pas trop. Après, on s'entend que il y a souvent des structures qui sont dépourvues de moyens. Donc, tout ça est très, voilà. Moi, j'interviens des fois où il y a peu de moyens. Donc, on essaye de faire comme on peut. Il s'agit aussi de voir comment les choses peuvent s'agencer. Mais dans des structures, des fois, absolument officielles, des villes, la métropole de Nice, des fois, ne payent pas les artistes qu'ils exposent parce que c'est un grand cadeau de les exposer et qu'on ne voit pas pourquoi il faudrait, en plus de ça, les rémunérer.
Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je connais sur Antibes. Voilà. On leur faisait même payer les petits fours.
Voilà. Bon, donc, voilà. La métropole d'Antibes, la fois où elle m'a embauché, m'a vraiment payé selon les tarifs de la charte artiste-auteur. Donc, ça existe aussi. Hein. C'est que normalement, tout ça est officiel. Il y a des tarifs, donc, qui ne sont pas des tarifs à l'heure, parce qu'on n'est pas des salariés. Il y a des tarifs à l'intervention, à la demi-journée. Ce n'est pas toujours simple à comprendre, mais il existe, hein, des protocoles très clairs pour suivre, pour faire les choses bien.
D'accord. Alors, là, je voulais revenir quand même sur ce statut d'intermittent. Parce que ce statut d'intermittent, qui peut en bénéficier, entre guillemets, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il est super avantageux. Bon, je schématise un peu, parce que bon, je sais très bien que ce n'est pas le cas. Mais enfin, on nous dit souvent, ah oui, mais les intermittents, tout ça. Donc, en fait, sur l'ensemble des artistes, quels qu'ils soient, ils touchent finalement peu de personnes.
C'est quand on dit artiste, voilà, il y a en effet, hein, mais en effet, les musiciens sont des artistes, mais sur le plan administratif, c'est pas le même dispositif. Après, il n'y a pas tout le monde qui veut avoir ce statut, hein, parce que dans le sens, ça, le statut d'intermittent, il est intéressant quand on a une pratique régulière et que ça permet d'avoir suffisamment de cachets. Donc, c'est-à-dire des cachets équivalents à 500 heures. Et donc là, c'est intéressant parce que figurez-vous que dernièrement, le MEDEF, ainsi que donc, le syndicat des patronats, ainsi que d'autres structures pas forcément bien intentionnées à notre égard, ont lancé une offensive pour que le statut d'intermittent, il faille maintenant 557 heures plutôt que 500 heures. Donc pour l'instant, ça a été une offensive informelle. Dans le sens, il n'y a pas encore eu de projet de loi, mais ils ont commencé à lancer ça. Alors, fort heureusement, on a tout de suite réagi. À Nice, on est allé se mettre devant l'opéra, avec donc, tous les camarades de la CGT Spectacle. Et dans plein d'autres villes, il y a eu d'autres événements, afin dès le début de venir se positionner contre ça. Et donc là, le MEDEF a fait un pas en arrière, mais bien sûr, ils vont revenir dans un an pour essayer d'attaquer ce statut. Parce que de toute façon, c'est évidemment que... Donc c'est la continuité des revenus du statut intermittent, c'est pas le rêve. Mais moi, en tant qu'artiste-auteur, c'est sûr que ça me fait rêver. Mais...
Et on avait vu l'exemple des musiciens, des pianistes, par exemple, qui accompagnent sur les cours de danse, sur les cours comme ça, qui n'étaient pas payés, du coup. Il y a eu aussi un peu ce problème-là.
Ah, mais ça, c'est sûr que c'est un métier assez précaire. Et après, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, de par mon engagement à la SNAP, c'est qu'on pourrait critiquer, on pourrait dire que... Les artistes auteurs, bon, sont souvent des personnes qui ont eu une éducation culturelle, qui sont quelque part, qui sont dans une classe un peu aisée, et qui donc qui peuvent se permettre d'être artistes parce que ce sont des petits bourgeois avec des réserves financières. Et peut-être si on arrivait à rendre le statut, que ça soit l'intermittence ou le statut d'artiste auteur, plus enviable, c'est-à-dire plus stable, moins galère, peut-être que ça conduirait des personnes qui ne pensent pas pouvoir s'engager dans la carrière artistique parce qu'ils savent que c'est finalement un statut qui, où ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins. Et je pense que voilà, on peut pas reprocher aux artistes auteurs de lutter pour leurs droits. On ne lutte pas que pour notre petite miette. On lutte aussi finalement pour le droit à toutes les personnes qui auraient voulu être s'engager dans une carrière artistique, que ce soit musicien ou artiste peintre.
Alors, on se retrouve après une pause musicale. Michel, nous nous retrouvons pour un alter regard sur la culture avec Tristan Blumel. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau ?
J'ai choisi donc une musique de Chocolat Billy parce que c'est un groupe donc bordelais de musique. Alors je dirais bon, vous avez entendu de rock un peu libre, un peu étrange, mais très joyeux. Et donc, quand j'ai commencé ma grande carrière de poète, j'étais à Bordeaux à l'époque. J'ai beaucoup fréquenté les concerts de Chocolat Billy dans le local des Potagers Nature, le nouveau local, qui était donc un local où à la fois il y avait plein de types de musique et aussi où moi j'ai commencé à réciter mes poèmes entre deux concerts. Et pour finalement, là, je trouve unir aussi le monde de la musique. Le monde de la musique et le monde de la poésie, hein, que je trouve qui, moi, va très bien ensemble. Quand on ouvre un peu ses oreilles, écouter de la musique bizarre ou écouter des poèmes bizarres, c'est tout aussi génial. Et donc, je salue Chocolat Billy, en tout cas.
Alors, je vous propose, dans cette partie, de parler un petit peu du financement. Donc, on a parlé du financement, de comment on vit quand on est artiste, mais le problème se pose actuellement du financement, donc d'une part de l'État, où le budget de la culture a encore diminué cette année, ensuite des collectivités, on a vu des régions qui ont supprimé complètement toutes les subventions, donc, et puis surtout l'impact, parce que quand on lit, une des missions de l'État, c'est le soutien aux initiatives locales. Or, en fait, le budget de l'État ne permet pas. On dit toujours que c'est Paris qui bouffe les 80% du budget. Donc, comment On peut créer, enfin les artistes peuvent créer avec une collectivité, avec l'État ou avec les collectivités, des organisations qui permettent de financer encore tout ça.
C'est des questions techniques. En tout cas, moi, si je parle de mon quotidien d'artiste et de quotidien des personnes que je connais, il y a plusieurs dispositifs qui nous permettent de gagner quelques sous, notamment le dispositif du Pass Culture, on va y revenir, qui a été mis à l'arrêt, reprend. Et après, il y a ce qu'on appelle les EAC, l'éducation artistique et culturelle, notamment par le biais de la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Et après, il y a aussi, en tant qu'artiste, plutôt du monde des livres, il y a le CNL, le Centre National du Livre, comme ça, des grandes structures qui régulièrement financent un peu des projets en passant par des associations. Par exemple, la DRAC, pendant plusieurs années, suite au Covid, avait un projet estival qui s'appelait « Rouvrir le monde » et qui permettait à des artistes d'intervenir dans des structures sociales. Moi, je suis intervenu dans des foyers de vie et des IME, donc des personnes qui accueillent qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et ça, c'était un dispositif en été qui permettait de faire rentrer l'artiste dans ce genre d'endroit. Après, il y a tout un maillon associatif dans les villes. Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt que faire ça que tu voulais me faire diriger. Alors c'est sûr qu'à Nice, ce dispositif n'est pas exactement simple. Je sais qu'il y a notamment les tiers-lieux, qui sont un statut de lieu rattaché, il me semble, à la municipalité, et peut-être à d'autres échelons, je ne sais pas.
Mais budget tiers-lieu a été considérablement diminué là sur 2026. Effectivement des structures intéressantes parce qu'il y avait, un brassage de culture en possible.
On a encore quelques tiers-lieux à Nice, donc ça c'est régulièrement des lieux de passage des artistes.
C'est aussi un lieu où les artistes peuvent, se poser aussi, le tiers-lieu. Il y a un endroit où on peut se poser pour pouvoir développer un petit peu ça. Il y a ça aussi, normalement.
Alors, c'est possible. En tout cas, c'est possible qu'il y ait des fois des ateliers, notamment. Là, il y a pas mal de dispositifs qui existent. Mais bon, à Nice, de par la question de l'immobilier... qui est très délicate, il y a peu d'ateliers d'artistes. Parce que c'est vrai que l'artiste, quand je dis artiste, l'artiste plasticien, il a souvent besoin d'un espace de création pour pouvoir, par la suite, s'il veut exposer et tout ça. Donc c'est souvent un grand enjeu, cette question de l'espace. De même que le musicien a besoin d'un espace ensuite pour répéter et aussi pour se produire. Et souvent, les petites scènes, ce sont des espaces qui permettent, qui sont très importants. À Nice, il y en a quelques-uns. La Zomé, où je parle beaucoup de Nice, mais bon, je sais que je pense par ici, il y a la Traverse, à Vence, il me semble. Bon, des espaces comme ça qui accueillent un peu une vitalité artistique, musicienne. J'ai l'impression que ce sont, en tout cas, des espaces un peu marginaux.
Mais oui, sur le tiers-lieu, j'ai présenté au maire d'Antibes un projet de tiers-lieu dans un bâtiment. Il n'a pas dit non, mais il n'a pas été emballé. À suivre.
Mes collègues de la CGT Spectacle, je parle aussi souvent du café, j'ai revu le mot, du café GIF.
Qui est où alors? C'est sur Nice aussi? Oui.
Non, j'ai l'impression que c'était marqué sur un de nos papiers, mais donc c'est aussi un dispositif qui permettrait finalement de pouvoir accueillir des artistes, de pouvoir ensuite les rémunérer avec des cachets. C'est qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent pour pouvoir essayer d'avoir des situations plus viables comme ça, que ce soit pour les structures et les artistes. Parce que pour les artistes, il faut qu'il y ait déjà un peu de sous.
parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, c'est des associations. Or, les subventions aux associations ont considérablement diminué quand elles n'ont pas été. On a beaucoup parlé des Pays de Loire, où elle a supprimé complètement toutes les subventions aux associations culturelles, disons. On a donc des difficultés, puisque c'est la plus grande. Quand les collectivités disent on finance 67%, en fait, ils le financent à travers des subventions aux associations.
Ben c'est souvent le tissu. Moi-même, je fais aussi partie d'une association, les journées poètes, enfin, la compagnie Petite Voix m'a dit, qui organise le festival des journées poètes, et donc j'aide comme ça à faire un travail associatif et bénévole pour pouvoir accueillir des poètes. Et donc je sais à quel point c'est très compliqué d'ailleurs de faire énormément de dossiers, après d'avoir de réussir à pouvoir accueillir les artistes. Ça demande souvent beaucoup beaucoup d'énergie.
Alors on a un autre souci, c'est tout ce qui est sur le patrimoine. Donc là c'est moins considéré, mais avec des soucis de financement, de l'entretien du patrimoine. Là il y a eu récemment, alors Stéphane Bern, c'est pas ma tasse de thé, loin de là, mais il a quand même lancé une grande alerte, et c'est dans ce sens qu'on dit que Paris consomme 90% du budget là, parce que l'entretien du patrimoine. Et l'entretien du patrimoine, c'est aussi les lieux où les artistes peuvent se produire. Donc, c'est pas simplement détaché complètement.
Ben, notamment, moi, je suis amené, j'espère que je serai encore amené à me produire plusieurs fois à un monument national, au monastère de Saorge, qui donc accueille régulièrement des artistes, qui est un très bel endroit, oui. C'est sûr qu'on sent bien que c'est pas exactement les heures de gloire du financement dans ces endroits.
Mais il y a des artistes en résidence à Saorge.
Il y a aussi, voilà, il y a à la fois des artistes. Alors, il n'y a pas tout le temps des dispositifs pour les rémunérer, mais en tout cas, ils sont accueillis et il y a des artistes qui se produisent. C'est un très bel endroit, oui.
Il y a une municipalité qui va dynamiser tout ça.
Ah, on espère, en tout cas, oui.
Voilà, alors, je veux revenir donc, sur deux points importants quand même. Donc, l'éducation artistique et culturelle, parce que, à mon sens, on en parle beaucoup, mais Cannes se vante d'être 100% EAC. Je ne sais pas si réellement c'est ça, mais en fait, c'est ce qu'ils affichent. Antibes, on est très, très peu EAC. Quand j'ai demandé aux professeurs du conservatoire, est-ce que vous intervenez dans les écoles, Ah ben non. Voilà. Et toi, tu interviens dans le cadre de l'EAC. Tu voilà. peux nous expliquer comment... c'est la ville, alors. La ville ou l'éducation nationale?
C'est-à-dire que dans les collèges, je crois que c'est là où ça joue, c'est que le collège et lycée, c'est la région.
Le département et la région.
Le département pour les collèges, les régions, c'est les lycées, et donc les écoles primaires et maternelles, c'est la commune, la ville. Et donc c'est pour ça que les interventions dans ces établissements passent par des dispositifs, et donc à Nice, le dispositif s'appelle 100% culture à l'école, il y a à chaque fois, c'est... Peu importe, ce sont des EAC, éducation artistique et culturelle, dont le but est pour les enfants, chaque année, de côtoyer une pratique artistique, donc à la fois, ça peut être la musique, le théâtre, la poésie, la sculpture, la photographie, des choses aussi, les marionnettes, des pratiques innommables, incroyables aussi.
C'est un projet d'école, là, ou un projet...
Et donc là, c'est un projet, si on reprend, c'est des projets co-construits par les artistes et les enseignants. C'est-à-dire, on essaye, les artistes construisent un peu un projet, une ébauche, et puis par un dispositif, la commune sélectionne des artistes, les met à disposition des écoles qui sélectionnent. Par exemple, si une année ils ont fait danse, l'année d'après ils vont se dire cette fois on va faire musique. Et donc l'artiste intervient dans plusieurs classes. Et des fois on se débrouille pour que l'intervention colle un peu avec le programme, avec les envies de l'enseignant-enseignante. Moi par exemple, j'ai fait écrire des poèmes sur la mer quand c'était l'année de l'océan. Bon, il y avait des,
Il y a une thématique.
Des fois, il y a une thématique, mais ça, c'est voilà, ça dépend de toutes les situations, parce que là, on est sur une organisation un peu entre artistes et équipe enseignante, donc on a une grande liberté.
Sur la musique, il y a l'orchestre à l'école, et puis il y a des mots aussi, c'est intéressant.
On a fait un autre dispositif, je crois que c'est l'orchestre à l'école, donc ça c'est des super choses. Et en tout cas, nous, en tant qu'artistes, ce qu'on voit, c'est que d'année en année, quand on va dans les classes, les enfants ont un grand bagage, quoi. Ils nous disent, ah oui, la danse, on a fait. Et donc ensuite, on peut leur faire écrire de la poésie tout en même temps qu'ils dansent, parce qu'en danse, ils commencent à maîtriser. Et ça, j'avoue que c'est très beau. Et je crois qu'à notre époque, nous n'avions pas cette chance. Et je pense que c'est très bénéfique, en tout cas.
Ah, moi, il y a un truc que je trouve intéressant avec Antea. Je ne parle pas de la programmation, hein, mais par rapport au scolaire, parce qu'en fait, il y a trois étapes, j'allais dire. C'est-à-dire, dans une première étape, c'est le spectacle à l'école, surtout sur les collèges. Dans une deuxième étape, les enfants viennent au théâtre, mais dans un dispositif exclusivement scolaire. Et dans une troisième étape, ils viennent au théâtre dans une séance, avec leurs parents, dans une séance classique. Et je trouve que c'est un dispositif qui est très intéressant parce que les enfants, du coup, petit à petit, apprennent et ont envie d'aller au théâtre et d'amener leurs parents.
En effet, des fois, on est invité, en tout cas, à faire sortir de la classe, à vivre de grandes aventures ailleurs, hein, que ce soit dans des parcs, dans des théâtres, dans des musées aussi, pour en effet rapprocher comme ça, des fois, les enfants de ces établissements, mais de manière un peu... Bon, on passe de bons moments, quoi.
Ça me paraît,
après, oui, le dispositif a plein de problèmes aussi, hein, que ça soit en tant qu'artiste, il y a beaucoup de bon voilà, je voudrais pas, tout n'est pas merveilleux, on s'en doute, hein, mais on essaye d'y travailler pour faire en sorte que l'artiste et que les enfants et que tout le monde soit gagnant dans ce dispositif.
Et moi j'avais proposé un moment, parce qu'on avait une école où il y avait de la place, d'accueillir un artiste en résidence.
Alors ça c'est vrai que dans les EAC, en tout cas à Nice, on peut être en résidence s'il y a la place dans les écoles. Alors normalement on pourrait, ce qui est des fois est intéressant, hein, c'est plutôt que d'aller de classe en classe, d'avoir d'un coup un espace, c'est, je l'espère, si j'ai de la chance, que je vais pouvoir faire l'année prochaine, où je ferai écrire de la poésie vraiment par les enfants, pour les enfants.
D'accord, oui, du coup ça met vraiment, ils vivent avec, quoi. Alors l'autre point que je voulais aborder, c'était le pass culture. Alors moi, je suis très, on était très dans un groupe, hein, d'élus à la culture. On a beaucoup écrit là-dessus. On était très très réticents sur le pass culture individuel. Pour nous, c'est une marchandisation de la culture. On vous donne des sous et puis voilà. Par contre, sur le pass culture collectif, il se passe des choses intéressantes. Or, ce pass culture collectif, il a été diminué considérablement. Donc, comment les artistes peuvent se situer, donc, dans l'un ou l'autre, l'individuel, ils ont changé l'âge. Bon, le budget global a diminué, d'accord, mais en plus l'âge a changé. Et là, moi j'ai lu que, en fait, sur le collectif, les chefs d'établissement avaient pour obligation de favoriser l'égal accès aux activités artistiques et culturelles de tous les élèves. Or ça, ils l'ont enlevé de l'arrêté. Donc c'est un peu dommage parce que ça risque de revenir, comme le pass culture individuel, à ceux qui ont déjà une approche de la culture, les moyens, c'est un peu gênant.
En tout cas, ouais, le dispositif Pass Culture est pas du tout idéal, et la manière dont il a été construit, c'est vrai que maintenant qu'il est là, on a envie de faire avec, donc on a envie de pousser, de renforcer cette part collective. Je sais qu'il y a eu moi j'ai eu, que ce soit personnellement ou les enseignants m'ont souvent raconté une merveilleuse aventure avec, en ayant comme ça ces artistes qui rentraient dans les collèges et lycées. Et qui d'ailleurs là aussi c'est marrant parce que c'est souvent aussi on se rencontre, ça permet de faire état de ce que c'est qu'un artiste, des dispositifs d'intervention d'un artiste. D'un coup les élèves sont très curieux. Alors, je ne les encourage pas à devenir artistes, vu la précarité que ça entraîne, mais souvent, les enseignants aussi comprennent pas trop cette idée de que, justement, on intervient de manière très diffuse, que juste à quelques endroits, et qu'on n'ait pas de revenus continus et tout ça. Ça permet de faire un peu de la pédagogie vis-à-vis de ça, de rendre visible ce statut d'artiste-auteur, qui est là, le Pass Culture... du fait de la question du budget, alors voilà, ça a mis beaucoup de temps. Nous, on a réussi quand même à faire intervenir des gens au printemps de la poésie, des poètes au dernier moment, hein, le 3-4 jours avant l'intervention, d'un coup, ça a pu s'être débloqué, on a pu avoir le budget. Donc, ce qui montre déjà à quel point tout ça est pas exactement pratique, quoi.
Oui, parce que c'est ce que me disait Antea. En fait, ils ont supprimé des interventions, oui, parce qu'elles n'étaient plus financées. Quoi.
Oui,
mais
tout à fait.
Là, la question qui se pose aussi, pour moi, c'est le poids, j'allais dire, des enseignants et du chef d'établissement. C'est-à-dire, si on en a un qui est ambitieux, qui a envie, mm-hmm, un enseignant, à la rigueur, comme tu dis, va se débrouiller pour faire débloquer, mais du coup, ça crée des inégalités, tout ça.
Il y a, de toute façon, c'est vrai que quand on intervient dans les écoles, on se rend assez vite compte, quand on met un pas dans l'école, si ça va bien se passer ou pas en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'on va tout de suite, si l'administration, si l'équipe, si est volontaire et que du coup va encourager, dans ce cas, en général, ça se passe bien, ou si c'est plutôt un peu réticent, qui voit d'un mauvais œil ces artistes. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est sûr que... ça dépend beaucoup de la bonne volonté, de la capacité. Et après, il y a des établissements qui ont, j'imagine, peu de fonds. Enfin, c'est plein de situations particulières. Je ne sais pas comment tout ça se décide.
Mais normalement, c'est une somme par élève.
Oui.
Donc, en fonction du nombre d'élèves, ils ont le budget. Sauf que, bon, là, en 2025, il y a eu ce problème où ils ont bloqué.
Oui, oui.
Sur 2026, c'est diminué puisqu'on est passé de 35 à 20 euros par élève. Mais il y a un petit budget qui doit permettre de faire des choses. Mais c'est vraiment laissé à l'appréciation d'enseignants volontaires et de chefs d'établissement, parce que moi, je connais les chefs d'établissement qui... eux bloquent, par contre.
Ça, c'est sûr, oui. Il faut l'accord du chef d'établissement.
Donc, c'est très compliqué, du coup, et c'est vrai que c'est du coup dommage. Et moi, je dis toujours, avec le Pass Culture, on a les deux visions de la culture. Une culture de droite, avec le pass individuel. On vous donne des sous, allez acheter. On marchandise la culture. Et puis, une culture de gauche, qui est une culture plus collective, plus sociale, plus émancipatrice, qui est normalement l'objet de la culture.
Moi, les interventions que j'ai faites par le Pass Culture, ce sont des choses, des moments et des qu'on voit mal comment ça. C'est pas équivalent du tout à rentrer dans une librairie et acheter un super livre. Et ce que j'encourage, un livre, un manga, un comics, une BD, ou même un dessin animé, un anime sur Internet, enfin, c'est formidable, mais c'est pas exactement le même type d'apport humain, culturel, artistique que d'avoir un artiste, une artiste qui vient trafiquer des choses avec nous, quoi. Et peut-être que c'est quelque chose qui est plus vaporeux, c'est plus difficile de comprendre en quoi ça va aider. Hein. Moi, je sais que mes interventions poétiques, beau lapsus, peuvent paraître un peu farfelues et je viens attaquer le langage, je viens plutôt déstructurer le langage. Mais je pense qu'au final, ça apporte beaucoup sur le plan pédagogique pour pouvoir ensuite écrire correctement. C'est presque contre-intuitif, mais en apprenant à écrire n'importe comment, ensuite on arrive bien à écrire correctement. Mais ça nécessite un peu un pas dans le vide. Et je pense qu'il y a cette peur, des fois, du pas dans le vide, de la chose un peu plus floue, quoi.
Les enseignants ont un peu peur aussi, quand même.
Voilà. Mais c'est parce que c'est quand même c'est très cadré, l'école. Hein. Il y a les sonneries, il y a les notes. Et donc, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, on doit venir venir un peu bousculer tout ça. Et en même temps, c'est pas facile. Donc là, c'est intéressant, ce rapport de force, presque, qu'il y a souvent. L'artiste doit, comme dirait Platon, le poète doit mettre le désordre. C'est pas possible, il n'a pas le droit de figurer dans la cité. Mais pourtant, c'est pour ça qu'on le paye. C'est pour qu'il vienne... éclaboussée.
D'accord, alors nous nous retrouvons après une pause musicale. Michel Murator, nous nous retrouvons pour un alter regard avec Tristan Blumel qui nous parle, qui est poète. Il faut quand même insister là-dessus parce que c'est pas souvent qu'on a un poète à la radio. Alors, je voulais enchaîner avec les écoles d'art. Donc, moi, j'ai vu Dunkerque qui a un gros souci. On a eu toute l'année dernière des écoles nationales hein, d'art qui ont lancé un appel au secours au ministère parce qu'elles n'avaient plus de budget. Et là, sur Nice, on a la chance d'avoir une super école quand même, la Villa Arson. Et donc, tu as des relations, des contacts avec la Villa Arson. Tu peux un peu nous parler de la Villa Arson.
Voilà, donc c'est un peu un dossier en cours, mais en tout cas en novembre dernier, alors que l'on se regroupait avec les camarades de la CGT Spectacle, du SNAP, dans une réunion ouverte pour parler de l'art et de la culture à Nice. Des étudiants et étudiantes sont venus, donc de la Villa Arson, sont venus à notre réunion et nous ont signalé qu'en ce moment, vraiment, il y avait beaucoup de problèmes, que ça allait très mal pour eux. En tout cas, il y avait vraiment une détresse. Et on est allé par la suite là-bas, on les a rencontrés. Et donc, en fait, il y a, dans tout cas, les écoles des Beaux-Arts qui dépendent donc, du ministère de la Culture, mais qui sont en même temps en ville, qui ont un ancrage très local, ça mène, j'ai l'impression, souvent à des situations compliquées. Et là, à la Villa Arson, il y a beaucoup de cas, il y en a qui ont été documentés d'ailleurs, mais même sans parler du cas qui a été documenté, sur lequel j'ai pas spécialement envie de revenir, donc des violences, des harcèlements sexuels et aussi des histoires de racisme, que ce soit des fois lié aux équipes des professeurs, à l'équipe enseignante, mais aussi lié à l'équipe des anciens de l'administration. Donc il y a tout un tas de problèmes qui se créent du fait que ça devient un peu un lieu clos où il y a un peu des jeux de pouvoir qui se dessinent et que comme c'est quand même bon, c'est une école, c'est plus le collège, ce sont des personnes des fois un peu plus âgées que ça, des fois qui travaillent un peu pour l'école et ça mène à vraiment de graves problèmes tout ça.
Et les conditions du coup d'apprentissage, donc
les conditions d'apprentissage sont vraiment voilà et du coup c'est presque caricatural mais qui est à l'image des conflits un peu d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ensuite les enseignants viennent râler parce qu'ils disent quand même il y a un peu trop d'agitation, mais en effet les élèves au début d'année avaient beaucoup exprimé leur colère par de nombreux tracts, de nombreuses inscriptions sur les murs parce qu'il y avait une situation invivable, qui devenait, bien sûr, dans un tel climat, invivable un peu pour tout le monde, quoi.
Donc là, c'est une situation à surveiller, à suivre.
Voilà, nous, on a recommuniqué, on avait bien sûr essayé de rencontrer un contact avec notre feu ministre de la Culture, Rachida Dati, bien sûr, sans réponse. Là, vu qu'il y a une nouvelle directrice à la Villa Arson, et alors, un ou une nouvelle ministre de la Culture, je ne saurais pas dire.
C'est une.
Comme tu as dit au début, Michel, il y en a beaucoup, hein, ça se succède. Bon, on a essayé de rentrer en contact avec le ministère, parce que c'est souvent des dispositifs, là, à la Villa Arson, il y a des dispositifs où ils prétendent rendre des comptes au ministère, dire ah oui, mais on a fait remonter des signalements, mais finalement, c'est quelque chose de tellement loin, et des fois, les signalements, en fait, sont remontés par les personnes qui ont, elles et eux-mêmes, commis les problèmes, donc tout ça devient un peu un vase clos.
Alors, pour avoir un ami au ministère, je sais qu'il y a aussi une grosse difficulté sur tout ce qui est contrôle des établissements.
Voilà, tout à fait.
Donc là, je crois qu'il n'y a pratiquement plus personne, très peu de monde, donc c'est impossible d'assurer des missions de contrôle, mais qui sont normalement des missions d'accompagnement aussi. C'est pas simplement je viens, je contrôle, dis ça, c'est pas bien.
Et là, donc, en plus, par rapport, tu parlais des questions de budget, et du coup, bon, y a un côté très... Côte d'Azur bling bling à la Villa Arson, qui donc, parce que c'est à la fois des centres d'art, les écoles des beaux-arts, donc qui dit centre d'art dit exposition, cocktail, et des fois il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans, dans le côté bling bling Côte d'Azur, hein, qui nous est propre ici. Tandis que, bon, dans les internats, il n'y a plus de chauffage. Dans les ateliers, il n'y a plus de chauffage. Parce que ça, finalement, c'est moins important, quoi.
Alors, je voulais venir sur... on sort d'élection, sur le poids donc du RN, sur les politiques culturelles, bien entendu, hein, parce que le reste, entre autres, donc avec Stera, qui finance et donc du coup oriente les politiques culturelles. Donc toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu sens déjà, ou pas encore, ou dans le passé, une pression, j'allais dire, idéologique sur les artistes?
Bon, dans tout cas, là, j'ai l'impression d'avoir de la joie dans ma voix, mais parce que je suis heureux d'être ici. Mais c'est vrai que ça, c'est des sujets qui donnent un nœud à Nice. On a vraiment senti, et vraiment, dans tous les endroits suite aux élections municipales, d'un coup, il y a un spleen au ventre qui s'est instauré, quoi. Hein, et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. D'après ce qu'on a discuté avec les camarades, c'est que là, j'ai l'impression que pour un an, jusqu'au présidentiel, ça va rester assez calme. Il ne va pas y avoir beaucoup d'opérations de censure directe, en tout cas sur le plan légal, enfin administratif. Mais ce qui se passe maintenant que c'est l'extrême droite est en partie au pouvoir dans ces endroits-là, il y a aussi une libération de la parole. Et que du coup... on a un peu peur aussi, même il y a eu déjà plusieurs agressions dans l'espace public lors de rassemblements, et donc des fois on a un peu peur de ça aussi, c'est qu'il y a à la fois le côté légal qui pour l'instant là je pense on va voir, c'est dans un an, même on a même peur pour à la Bourse du Travail de Nice d'un coup de nous voir retirer le local et le bail, ça on sait que ça peut arriver, on a encore un peu de temps, mais en tout cas des agressions notamment en ce moment à Nice, il y a le festival LGBT+, le queer festival, et on, pour l'instant tout va bien, hein, mais c'est vrai que ça fait aussi peur cette dimension-là, en tout cas de violence un peu qui peut à tout moment arriver.
Mais le risque, c'est aussi, bon, il y a la censure, on va y venir par rapport à l'édition, bien sûr, mais il y a aussi le risque d'une auto-censure, finalement, parce que quand tu dis ça nous fait peur...
En tout cas, c'est vrai que même quand on est artiste, là, je suis souvent amené à travailler avec les municipalités, et du coup, ça veut dire aussi discuter avec... Bon, ça rend les choses des fois compliquées et on peut vite être instrumentalisé aussi, d'être... Ça m'est arrivé qu'on me demande d'être poète public dans un meeting de maire à l'époque à Bordeaux et ça pose des questions, d'un coup on n'a pas exactement envie, bon... Et la censure, en tout cas, c'est un truc, que ça soit la censure ou l'autocensure, c'est un sujet compliqué aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est à la fois... ça fuse de tous les côtés, quoi. À la fois, on pourrait accuser de censurer, on pourrait accuser l'extrême droite de censurer des choses, et à la fois, on pourrait accuser les personnes qui sont pas d'accord contre l'extrême droite de censurer à juste titre, parce que le racisme est un délit, par exemple, hein, entre autres délits potentiellement commis par ces gens-là. Et donc, c'est pas simple. Et c'est vrai que moi, on parle souvent d'une structure qui s'appelle l'Observatoire des libertés de création, que pour ma part, j'investis pas beaucoup, mais qui, je pense, peut-être il y a quelque chose qui peut se passer là, dans ces endroits-là, pour essayer de voir cette question de la censure, de la liberté de création, comment la préserver. Ou alors, ne pas être intolérant envers l'intolérance.
Alors, on a des exemples déjà, Madame Majorie de Ville. Bon, je cite Vauvert, où il y a une expo photo qui a été annulée parce que l'artiste était étiqueté LFI. Le festival de jazz, qui du coup s'est déplacé. Carcassonne, où il y avait un festival international du film politique. Alors, eux, ils ont décidé. Alors, il n'y a plus de subvention de la ville, mais ils ont décidé de continuer quand même. Bon, Perpignan, c'est pas nouveau, tout ça. Vierzon aussi, où il y avait un festival. Donc, il y a quand même. On est à 2 mois des élections et on voit déjà qu'il se passe des choses, quoi.
Oui, puis des fois, c'est un peu ridicule. J'ai entendu que les trans musicales se sont menacées parce qu'il y a le mot trans. Alors, au début, c'est une blague, mais au bout d'un moment, c'est.
On se demande si c'est une blague ou si
début,
c'est.
Au voilà, début, ça commence par une mauvaise blague, mais ça finit mal. Hein.
Ouais, c'est un peu ça.
Mais, oui.
Et alors le clash, on peut pas parler de culture et ne pas parler de l'édition et de parler donc de Grasset et du poids de Bolloré, parce que je citais Stérin. Il faut savoir que Stérin, entre autres, il finance les Templiers à Biot. Bon, c'est pas, pour moi, c'est pas culturel, hein. Mais c'est le Puy du Fou, c'est les Templiers à Biot et d'autres, ça oriente quand même vers une idéologie, tout en ayant des airs de grand public et de spectacle, quoi. C'est ça aussi. Donc, alors, Stérin, lui, il finance, il a pour objectif, il est clair, hein, son projet Périclès, c'est clair, c'est vraiment poser tout ce qui est extrême droite. Et Bolloré qui a mis la main sur l'édition, mais c'est pas que l'édition, il a les médias aussi, soit là, sur les télés et là ce qui est étonnant à mon sens, c'est qu'il y a eu une réaction, parce que jusqu'à maintenant il a mis la main sur les télés où il a cassé je sais pas, on parle de Canal+, des guignols de l'info, des choses comme ça, il n'y a pas eu de réaction, et là Grasset, il y a une réaction puisqu'il y a 140 auteurs qui ont dit on va quitter Grasset. Donc comment on explique que tout d'un coup les auteurs se mobilisent, et alors que précédemment ils n'ont rien dit, hein.
En tout cas, depuis, ça fait longtemps qu'on alerte. Je sais que le rachat par Hachette, il y a de grandes mobilisations. Il y a beaucoup de cette question de Bolloré, de Bolloré et Hachette. Ça fait longtemps qu'on essaye d'alerter dessus, quoi. Hein. Pas pour rien. Après, pourquoi dans certains milieux, j'ai l'impression, il y a peut-être des endroits plus politisés où que la situation devient tellement énorme que ça montre à quel point. Ce n'est pas de la paranoïa de penser que Bolloré a visiblement des intentions étranges, hein, parce que l'éditeur, je ne sais plus.
Grasset.
L'éditeur, voilà.
Il y avait Fayard avant.
En tout cas, de la personne qui dirigeait Dora, je ne sais plus. Voilà, visiblement.
Olivier Dora.
Quand même, apparemment, il y a beaucoup d'auteurs qui étaient vraiment en très bon contact avec cette personne-là. Ça, visiblement, ça rapportait beaucoup d'argent. Donc pourquoi venir casser ça? C'est qu'il y a il y a quelque chose d'inquiétant, c'est pas juste que ça rapporte pas d'argent et qu'il faut non, c'est
vraiment une idéologie qu'il faut placer, qu'il faut faire avancer. Alors là, il y a des auteurs dans tout ce qui s'est passé sur Grasset qui demandent une loi qui protégerait l'ensemble du secteur de l'édition avec la création d'une société auteur-éditeur, un peu ce qui existe dans la presse. Donc, est-ce que ça pourrait quelque chose qui pourrait être élargi? Donc, je veux dire, parce que là, on est sur un cas les auteurs, éditeurs. Enfin, mais c'est cette société qui, du coup, a un droit de veto sur des nominations, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être élargi et qui te paraîtrait intéressant?
Alors, je pense qu'il faut faire quelque chose, en tout cas, hein, parce que ça soit les médias, il y a une logique, alors j'utilise le grand mot, mais il y a une logique capitaliste qui fait que les grands médias, les milliardaires finissent par posséder tout. Et donc oui, sans doute qu'essayer de créer des structures qui viendraient empêcher ça, qui viendraient en tout cas essayer d'empêcher cet accaparement par des grands groupes. Donc je pense qu'il faut essayer, moi j'ai confiance dans les gens qui réfléchissent à des solutions, et s'il y a des solutions, celles que tu suggérais, peut-être qu'en effet ça peut être une très bonne piste, quoi. C'est que là on voit bien dans tous les domaines qu'il y a quelque chose à faire.
Certains demandent d'ailleurs une clause de conscience, un peu comme les médecins ont une clause de conscience, de manière à ne pas laisser toutes les dérives, j'allais dire.
Ah oui, c'est sûr, hein. C'est sûr qu'il y a quelque chose à... Bon là, en ce moment, on parle beaucoup de cette fameuse commission d'enquête sur les médias France Télévisions, et j'ai l'impression que c'est un peu des choses aussi comme ça qui traversent en ce moment la scène culturelle, médiatique française et mondiale. Hein.
Oui, mais là, on retrouve bien l'objectif de casser le public, tout ce qui est service
tout
public.
Tout à fait. Okay.
Alors, on arrive à la fin. Des projets, des dates, on peut citer? Quelques projets, quelques dates, non? Alors, on te retrouverait où, quand?
Moi, en ce moment, j'ai la chance d'avoir une exposition, d'exposer des poèmes graphiques à l'atelier 3x9, qui est un atelier de Mona Barbagli, avec laquelle j'expose. On a participé au Festival des Visiteurs du Soir, parce qu'une fois par mois, on a des palabres militants à la Bourse du Travail. Allons-y, camarades, allons-y joyeusement.
Eh bien, merci beaucoup, et nous nous retrouvons le mois prochain pour un autre Alter Regard.